Parlez-moi d'IA.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison.
C'est une machine qui ressent les choses.
On nous raconte n'importe quoi sur l'IA.
Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit ?
Moi, je n'en dis rien du tout.
Que la créativité, elle reste du côté de l'humain.
Parlez-moi d'IA, présenté par Jean-Philippe Clément.
Bonjour à toutes et à tous. Que diriez-vous de vous accorder 30 minutes pour interroger le phénomène intelligence artificielle sur ses aspects sociaux, culturels, éthiques, un petit peu techniques et pourquoi pas politiques? Dans cette émission, on va se demander comment on peut intégrer l'IA dans le processus de conception et de production d'objets industriels du quotidien ou éventuellement de loisirs. Quelles portes on ouvre dans la chaîne de production? Quels risques on évite ou on doit éviter? Que devient en fait la place de l'humain dans ce processus?
Cause Commune, 93.1 FM.
Vous êtes bien sur Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune que vous pouvez retrouver sur le web, cause-commune-au-singulier.fm. Bande FM, 93.1 à Paris, et le DAB+, et bien sûr sur votre plateforme de podcast préférée. Cette émission vous plaît, merci de vous abonner, mais surtout de prendre 5 secondes pour mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, un petit pouce bleu sur YouTube. C'est notre seule récompense, et cela nous fait connaître car ça manipule les algorithmes. Et Elisa ?
C'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez, parlez-moi d'IA.
Après le salon du Big Data et de l'IA Paris 2024, j'ai de plus en plus l'impression que deux visions s'opposent au sujet de l'IA. On a d'un côté les critiques, qui, au-delà des écueils environnementaux, des écueils socioculturels liés au biais des IA, des soucis du copyright, mettent fortement en avant les hallucinations des outils. Pour eux, cela empêche de produire des résultats concrets et productifs. C'est rédhibitoire. Cela montre que l'IA ne sert à rien et que la bulle des investissements massifs dans les outils productifs d'IA générative va prochainement exploser. Bon. Et de l'autre côté, il y a tous ceux qui veulent au contraire montrer les gains et les apports de l'IA. Les apports que l'IA peut nous amener. J'en ai croisé plein aussi au salon du Big Data et de l'IA Paris 2024. D'ailleurs, le salon était beaucoup moins fun que l'an dernier. C'était presque un peu le salon de la maturité. Il fallait prouver que les solutions IA apportent quelque chose aux métiers et bien sûr aux entreprises derrière ces métiers. Pour faire la preuve de cet apport, quoi de plus concret et sérieux que d'aborder l'IA dans le domaine de la production d'objets industrialisables ? On ne parle pas d'écriture de texte pour faire des posts sur les réseaux sociaux, on n'est plus dans la simple traduction ou le simple résumé de texte, il s'agit là de se servir de l'IA dans le processus de conception, c'est-à-dire de l'émergence d'un concept d'objet à sa mise en production sur la chaîne industrielle, en passant bien sûr par la multiplication des pistes envisageables, la définition de ses caractéristiques, par le design d'un croquis, par un prototypage, bref, toutes les étapes de la création bien réelle qui sera mise in fine en rayon. Ils ne sont pas nombreux à avoir cet usage de l'IA et à accepter de parler de leurs découvertes, de leurs tâtonnements, de leurs réussites. Mais heureusement, notre invité du jour a cette culture du partage et pense que ces usages doivent se démocratiser au sein des entreprises françaises. On reçoit aujourd'hui un serial entrepreneur, le dirigeant d'une entreprise marseillaise, Izun, qui a inclus les outils de l'IA au sein de ses processus de production. Bonjour Fabrice Raffo.
Bonjour Jean-Philippe Clément.
Bienvenue à distance depuis Marseille. Écoutez,
merci pour l'invitation.
Avec plaisir. Alors, parlez-moi d'IA, Fabrice. À quand remonte votre toute première rencontre avec l'IA et comment ça s'est passé?
En fait, ça remonte à l'été 2023, donc c'est pas très vieux, hein, c'est à peine un peu plus d'un an, où je travaille pour le compte d'un client qui s'appelle Jeco, qui fait des jouets, et je l'ai aidé à développer une marque qui s'appelle Greasy Motors, qui est une marque de petites voitures. À trouver l'usine, parce qu'une de mes activités, c'est de trouver des usines et de développer des produits. Et ce projet a vraiment décollé. Et je trouvais qu'il y avait un petit goulot d'étranglement au niveau de la création, où ça allait pas forcément assez vite à mon goût. Je me suis dit, c'est pas possible, je vais essayer d'utiliser l'IA, parce que je voyais ce qui se passait sur Midjourney à gauche, à droite, pour essayer de faire de la création un peu plus rapide et voir ce que ça donnait. Donc j'ai passé grosso modo l'été à tâtonner sur Midjourney, à apprendre comment ça fonctionnait.
Donc vous êtes rentré directement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de tâtonnement particulier, vous êtes rentré directement dans le concret pour un client. Alors peut-être que du coup on va essayer de mieux comprendre ce que fait Izun, ce que faisait Izun et ce que fait encore Izun aujourd'hui. C'est une c'est une entreprise que vous avez créée en quelle année et qui faisait quoi au départ?
Alors à la base, je fais pas. Alors c'est une société qui fait du conseil en entreprise.
Ouais.
J'aide les sociétés à justement à trouver au travers de ma division Isonde Factory la bonne usine qui va permettre de produire au bon prix, à la bonne qualité et dans les bons délais le produit qu'ils souhaitent lancer. Et en fonction du degré de maturité ou de la taille des équipes, j'accompagne également les sociétés à développer le produit. C'est-à-dire que des fois, j'ai juste une idée. Et je les accompagne depuis l'idée ou depuis un plan jusqu'au développement du produit, la mise au point des moules, le travail 3D, ce genre de choses, et bien sûr l'étude des coûts pour pouvoir intégrer les bons matériaux.
Ouais, donc vous êtes déjà dans le domaine. Vous êtes déjà dans le domaine de la production industrielle de base. Vous connaissez beaucoup d'usines à travers le monde qui peuvent aider justement les entreprises principalement françaises et européennes, c'est ça?
Oui, principalement en France. Alors au début, je l'ai fait pour moi parce que moi j'ai relancé en 2007 une marque de cartables qui s'appelle Tans.
J'ai
accompagné la société IKKS, voilà, donc vous connaissez sans doute.
Bah c'est toi, ouais, effectivement, c'est de ma génération. T'as ton Tans, c'est de ma génération.
Voilà, donc quand j'ai lancé Tans, c'est posé tout de suite la création du lieu de production. Très vite, j'ai compris que forcément, pour du cartable qui devait être à l'époque aux alentours des 50-60 euros, il n'y avait pas d'autre alternative que de travailler avec la Chine, déjà à l'époque. Mmh. Et donc, en 2007, je commence à aller chercher des bonnes usines, parce que l'idée, c'est d'avoir des bonnes usines avec de la bonne qualité. Et là, je me prends de passion pour la Chine dès le début, surtout pour les Chinois, hein, pour leur capacité de travail, leur intelligence au niveau des process. Et ce que j'ai fait pour moi, pour Tans, puis pour IKKS, il y a d'autres sociétés qui m'ont demandé de les aider à faire pour leur marque, leur propre marque.
Ouais.
Donc c'est comme ça que j'ai développé ma société de conseil en parallèle et que j'ai surtout accéléré une fois que j'ai eu l'opportunité de revendre Tans. Où là j'ai accéléré parce que j'avais un peu plus de temps et j'ai pris toutes les demandes entrantes pour aider les sociétés à fabriquer leurs produits.
Donc ça c'est les deux premiers piliers de Isun, c'est Isun Factory, donc ça sert à vous aider à faire du sourcing en Chine et ailleurs sur les usines qui peuvent aider les entreprises françaises à produire leurs produits. Et puis il y a Isun Vision. Qui permet de justement de les accompagner plus sur quoi, sur un plan
stratégique.
En fait. Ouais.
Oui, c'est ça. Plus sur un plan stratégique. Parce que moi, dans mes activités pour mes marques, parce que je vous ai parlé de Tans et IKKS, mais j'ai aussi lancé une marque de sac à dos qui s'appelle Cuts. J'ai lancé sur le marché français une marque de bagages. J'ai relancé une marque de jouets qui s'appelle les Bidibules. Donc j'ai une appétence pour le branding en général, qui fait qu'on m'a aussi sollicité pour écrire des plateformes stratégiques de marque, travailler des portefeuilles d'activités, réaliser des plans marketing très opérationnels. Donc c'est la stratégie au sens large, strat marketing, communication, branding. Ça c'est effectivement ce que je fais dans le cadre de la division Isun Vision de Consulting.
Et c'est avec ces activités donc de sourcing, que c'est ce que vous disiez en introduction, et d'accompagnement stratégique, qu'un de vos clients un jour vous a amené à vous intéresser de plus près à l'IA. Donc vous le disiez, en fait, il est venu avec un problème, c'est-à-dire qu'en gros il avait, si j'ai bien compris, une gamme de produits qui marchait bien, mais vraiment une difficulté à produire plus de différences, plus de produits différents, en fait, c'est ça?
Alors c'est pas vraiment un problème exprimé,
non.
C'est plutôt une frustration de mon côté. C'est-à-dire que j'avais réussi à trouver, ils avaient mis deux ans et demi qu'ils voulaient lancer ce projet, ils n'avaient pas réussi à trouver l'usine. Et moi, en deux mois et demi, avec mon réseau et avec tout mon staff sur place, en deux mois et demi, on a réussi à trouver l'usine qui a permis de lancer un an plus tôt Grézy Motors. Et ça a été un Noël, le Noël 2022-2023 qui a été vraiment exceptionnel, parce qu'ils ont fait des très très jolies ventes. Et moi je trouvais, alors moi c'était mon feeling personnel à ce moment-là, qu'en termes de création, on pouvait explorer d'autres horizons et faire d'autres créations.
La gamme n'était pas assez étendue pour vous, c'est ça que vous poussiez quand...
Voilà, donc c'était même pas une demande client, c'était plus moi.
D'accord.
Je me suis dit, c'est le cas parfait, alors c'était même pas une demande de leur part, hein, pour mettre les mains dans le cambouis et essayer de voir comment ça fonctionne l'IA, et peut-être que derrière ça pourrait être une solution que je proposerais à ce client ou à d'autres clients. Oui. J'ai pris comme un cas pratique pour... J'aime bien travailler sur des cas concrets, hein, plutôt que de prompter sur...
Il y avait une envie
de votre cerveau.
Il y avait une envie
de faire quelque chose.
Ouais.
Voilà.
Il y avait une envie sous-jacente de vous mettre les mains dedans, mais vous cherchiez un peu le bon sujet concret pour le faire, quoi.
Exactement. Je suis un peu geek effectivement, donc ça a été l'occasion de.
Alors comment on fait quand on est spécialiste de l'industrialisation, de la production industrielle, et tout d'un coup on se dit il y a un nouvel outil qui arrive là, il faut que je me mette les mains dedans. Par où on commence? Comment vous y êtes mis le pied à l'étrier de cette IA générative du coup?
Alors l'avantage que je peux avoir, je pense, c'est que je travaille depuis 20 ans, 25 ans, avec des créatifs. Donc une partie de mon métier, c'est de savoir briefer un créatif sur un cahier des charges, un nouveau projet, etc., etc. Donc je me suis dit que briefer ou prompter, quelque part, c'était assez proche. Mmh. Donc j'ai commencé à parler à ce moment-là plutôt avec, à l'époque c'était ChatGPT, hein, la version de Vatra 3.5, on n'était pas encore en turbo. Mmh. À parler à ChatGPT sur j'ai envie de créer un certain nombre de visuels et je l'ai briefé sur comment il comprenait ma demande et qu'est-ce qu'il pouvait me restituer. Et là, j'ai travaillé des prompts avec ChatGPT que j'ai après réutilisé dans Midjourney, parce qu'à l'époque, c'était vraiment aujourd'hui, ça a un petit peu changé, mais la meilleure façon de pouvoir créer, c'est de travailler avec Midjourney. Donc, tout de suite, j'ai compris que le LLM conversationnel pouvait être une interface brief avec le LLM création d'images. Ouais. Et donc, j'ai travaillé avec Chat pour affiner un brief qui pourrait devenir un prompt que j'allais utiliser dans Midjourney.
C'est quoi les difficultés que vous avez rencontrées justement dans cette manière d'aborder la description de ce que vous vouliez, le brief? C'est quoi vos premières constatations, vos premières frustrations, ou au contraire vos premiers effets waouh sur
Ouais. Alors, c'est qu'il faut être très très précis, sans être trop long. Quand vous faites un prompt qui finalement est très long, la machine va se perdre dans des détails et va s'éloigner de ce que vous voulez faire. Mais il faut quand même, là où quand vous travaillez avec un créatif, il suffit de montrer, par exemple, une petite voiture, les proportions de cette voiture sont particulières, tu vois bien qu'il y a une disproportion là, etc., etc. Très rapidement, en 2 minutes, le créatif va avoir compris ça.
Oui.
Alors que la machine, il faut vraiment lui expliquer ce genre de disproportion que vous voulez avoir et quelle est la dose de créativité ou d'imagination que vous voulez intégrer entre le fait de créer une petite voiture qui pourrait être une réplique d'un modèle existant et une voiture qui va vraiment récupérer l'ADN pour le coup des Grizzly Motors.
Oui.
Donc il faut à la fois prompter la proportion, mais également prompter l'ADN de la marque en n'étant pas trop long. Donc c'est vraiment le juste équilibre de toutes ces données qui fait que le prompt est juste. Et j'ai galéré avant de sortir une voiture qui ressemblait à une Grizzly Motors.
Combien de temps vous avez
mis? Ça a pris bien, je pense, une dizaine, une quinzaine de jours. À me dire, j'y arriverai pas, ça fera rien.
Une quinzaine de jours, quasiment à temps plein pour essayer de sortir ce qui... Ok.
Oui. Quand je m'y suis mis peut-être 6 ou 7 heures par jour parce que j'avais quand même des choses à faire et ça a été un peu une période où j'étais dans une phase un peu maladive par rapport à l'IA qui peut être...
Vous avez trouvé la manière de le rendre créatif, parce que ces LLM, ils sont quand même entraînés sur des images et des éléments qui existent déjà, finalement. Donc pour être créatif, il faut un peu lui demander des distorsions, il faut lui demander des choses nouvelles, pour qu'il sorte des sentiers battus de ce qu'il a déjà vu, de ce sur quoi il est déjà entraîné. C'est ça un peu la difficulté, c'est d'arriver à le faire un peu finalement sortir de route pour qu'il soit un peu plus créatif.
Complètement, parce que si vous avez compris à peu près comment il fallait prompter pour faire une Grizzly Motors, vous avez parlé des proportions, de l'esprit de la marque et de ce genre de choses, et que vous le laissez faire, là vous allez avoir des réponses qui vont être stéréotypées et qui vont toutes se ressembler les unes les autres. Et c'est là que la part de l'humain redevient à nouveau importante, parce qu'on l'a eu dans la partie intelligence du prompt, mais après il faut intégrer de l'humain dans l'intelligence culturelle du prompt. C'est-à-dire que moi, j'ai une petite culture automobile. Mon père était fou de voitures, etc. Donc, j'ai une culture automobile qui m'a permis de pouvoir dire « J'aimerais que tu partes dans un style américain des années 50 ou que tu reviennes plutôt à ce style de buggy en mettant des noms de marques ou des choses comme ça. » Donc, ça permet de pouvoir alimenter avec une culture personnelle l'intelligence artificielle. Et là, vous allez avoir des résultats qui vont ressembler à ce que vous avez en tête.
C'est là où vous dites que l'humain revient finalement dans le processus, c'est-à-dire qu'il apporte sa propre culture, ses propres mots aussi, son propre vocabulaire de base pour enrichir justement les prompts. C'est ça qu'on entend dans ce que vous dites là.
Exactement. Pour moi, alors ça peut paraître paradoxal, hein, mais l'humain est vraiment au centre de la démarche créative avec l'intelligence artificielle. Si vous vous laissez complètement guider par l'IA, alors ça peut être très intéressant. Il faut pas mettre complètement de côté cette façon de travailler avec l'IA. Mais si vous vous laissez complètement guider par l'IA, vous allez avoir des choses qui vont toutes se ressembler les unes les autres. Alors que si vous mettez de vous-même, de votre histoire, de vos compétences, de ce que vous aimez dans l'art ou ce que vous aimez dans le design produit en général, vous allez forcément induire un biais qui va faire que vous allez retomber sur votre culture personnelle. Donc je dis que c'est important de le faire pour pouvoir se rapprocher de ce que vous avez vraiment en tête, mais c'est aussi très important de laisser faire l'IA, parce que des fois elle vous emmène sur des chemins que vous n'aviez pas imaginés, et il faut être assez ouvert d'esprit pour se dire, ah ouais, donc là sur les 12 pistes que j'ai vues, il n'y a rien qui va, non, il y en a peut-être une. Qui en creusant, en travaillant un ping-pong avec la machine, vous allez pouvoir sortir de quelque chose que vous n'aviez pas forcément vous-même en tête au début. Ouais. Donc c'est aussi ce travail un peu en ping-pong qui va être intéressant.
Et vous me le disiez en préparation de cette émission, en fait, justement, dans cet apport culturel de l'humain, finalement, dans le processus créatif, vous aviez une vision particulière de l'intergénérationnel. Le fait que, finalement, différentes générations, avec leurs différentes cultures, pouvaient apporter différentes choses dans le processus créatif lié à l'IA. Est-ce que vous pouvez développer cette partie-là, le fait de...
Ouais, tout à fait. Ouais, Jean-Philippe, vous avez raison. Je pense effectivement que l'IA, c'est pas une affaire que de jeunes. C'est-à-dire que c'est pas forcément un geek qui sort d'une école ou d'ingénieur ou de design, hein, tout de suite, qui va être le meilleur prompteur. Alors, je dis pas qu'il va pas être mauvais, hein, parce qu'il a forcément sa propre culture, mais c'est vraiment un domaine qui doit être ouvert à tous et à toutes, et notamment, je pense, aux seniors. Alors moi, j'ai bientôt 50 ans, donc je suis bientôt un senior. Mais comment dire, en tout cas, dans le domaine de la tech, je suis un dinosaure. Mais je pense que des gens comme moi, même des gens plus âgés, voire beaucoup plus âgés, et je l'ai expérimenté, hein, quand vous les mettez devant la machine en leur expliquant que c'est comme s'ils parlaient avec, allez, on va dire, lâcher un mot qui va faire réagir un ami ou un collègue, un confrère designer ou un confrère dans le domaine d'expertise sur lequel il est, juste de lui parler et de lui parler d'une problématique, il y a des choses incroyables qui sortent, parce que là, effectivement, il y a toute l'histoire de la personne avec son propre prisme, et c'est ça qui est intéressant quand on parle de création, parce que là, quand même, on parle plus de création. Dans le gros débat qui est sur l'IA, c'est qu'on est tout le temps en train de recycler de l'existant.
Oui.
Mais en fait, c'est un peu ce que fait l'homme, à part les artistes au sens large, qui eux sont capables de créer de toutes pièces des choses nouvelles.
Et encore, ils sont quand même inspirés, les artistes aussi.
Ils sont quand même inspirés, effectivement, mais tous les designers, les créatifs au sens large, c'est plutôt des éponges qui vont capter l'histoire de l'art qu'ils ont pu voir, ou l'histoire du design d'objets qu'ils ont pu voir. Et ces éponges-là de captation savent retranscrire par rapport à un temps présent, à une temporalité, ce qui va être dans l'air du temps, dans le design qu'ils vont pouvoir donner.
Donc
de toute façon, c'est à la fois capter ce qui se passe sur le moment présent, mais aussi tout l'historique qui fait que la démarche créative est intéressante. Mmh. Et c'est pour ça que je pense que tout le monde est apte à prompter, et même, je serais même dire, tout le monde doit prompter, parce que c'est un spécialiste peut-être, demain, si je dois faire, je vais vous dire des bêtises, mais un porteur pour enfants, c'est peut-être quelqu'un qui a déjà fait des porteurs pour enfants, qu'on va pouvoir demander de prompter, ou alors quelqu'un
avec
qui
fait
des petites... Avec ses propres mots, exactement. Avec ses propres mots.
Venez comme vous êtes face aux prompts. N'essayez surtout pas de faire des prompts stéréotypés, quoi. Venez avec votre propre culture. Écoutez, merci déjà pour ces premiers partages, première partie de l'émission. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale. Dans l'intergénérationnel, figurez-vous que ce morceau m'a été conseillé par mon fils. Donc merci Axel. On va écouter Luther sur son morceau à l'aide, à l'aide, à LED. Hein, c'est aussi multigénérationnel. Et c'est un album qui s'appelle Exit. Et en fait, bon, le morceau, il est pas mal. Hein, mais je vous conseille surtout d'aller voir le clip sur YouTube, parce que le clip, lui, il a été totalement généré par IA et il est à la fois très impressionnant. Voilà, vous irez voir, et assez gênant car étrange, parce que généré avec l'IA. Donc on écoute Luther.
Je dois retenir la leçon, faut pas parler quand on sait pas. Mes gros dans les doigts, jamais trop serein dans mes choix. L'angoisse a pris des rides, on s'est aimé auprès des rites. Je veux que être une légende, fuck shit, j'ai perdu ma B-élite. Je capte ceux qui parlent mal, un paquet de clubs, des cartons dans mon cartable. Pas trop par clash, je suis un garçon du bar table. À la fin, je serai tricard sur mon Bartman. Ce matin, je voulais tout lâcher, j'ai failli tout gâcher. Le cerveau tout haché, j'ai faim, je vais tout mâcher. Je suis l'étranger d'ici. J'ai laissé tout passer, j'peux pas me ranger si c'est. J'ai fini de tout casser, j'ai des tocs, je les ai développés quand j'étais gosse. J'ai du mal avec l'amour, j'en aurais bien voulu quand j'étais moche. Du mal avec le violon, avec la cour que tu me fais. On sait que tu sais pas, mais tu dis que tu le sais. Que je me hais, que tu le sais. Que tu me tords, que tu me saignes. J'suis pas trop guest de rouge, mais j'te capte toute la merde. J'casse la serrure avec le tool, comme envie de braquer toute la terre. J'ai promis des tas de trucs, j'allais pas, je compte plus les promesses que j'ai qu'elle. Je pourrais donner ma vie si je suis pas belle, faut souffrir pour rester différent. Je parle depuis mon écosystème comme si j'avais tout vu, mais le monde il est grand. Je lis des grandes choses sur un petit écran, je regarde pas dans les yeux. Quand j'avais du shit dans les pneus, je crois que je me sentais mieux. Je pourrais donner ma vie si je suis pas belle, faut souffrir pour rester différent. J'ai jeté mes remords à la poubelle, les sourires. Il parle en mort, je peux l'entendre crier allez.
Merci, merci Luther, merci Axel pour la reco. Vous êtes toujours sur Cause Commune, la radio en FM 93.1 à Paris, toujours parlez-moi d'IA, toujours l'épisode où on apprend que l'IA peut nous aider à produire des objets industrialisables, quel que soit le domaine d'activité, avec Fabrice Raffaut, le dirigeant d'Izun. Fabrice, vous nous avez partagé un peu votre entrée dans l'IA, mais maintenant c'est quelque chose qui est intégré finalement à Izun Créative. Vous pouvez nous décrire un petit peu du coup comment vous utilisez toute la gamme des outils d'IA maintenant pour tout le processus de création. Là, je suis un client, je viens vous voir, je vous dis voilà, j'ai besoin de vous pour réfléchir à un nouveau concept. Est-ce que vous avez un exemple que vous pourriez nous citer comme ça de processus créatif complet?
Oui, très vite après avoir parlé avec Jeco de montrer en termes créatifs ce que je pouvais faire pour Grazy Motors, ce qu'on pouvait faire. Était présent un designer ami qui s'appelle Christophe Gillet, qui a été assez impressionné. Alors lui, sur son métier, c'est de faire du design industriel. Hein, mais il a été assez impressionné par la qualité créative et la quantité et la qualité de ce que j'avais proposé lors de cette réunion, un petit peu que j'avais sollicité. Et il m'a dit, écoute, on a un projet avec Jean-Yves Le Porcher, qui est un autre grand nom du design, mais qui demande de travailler avec l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que nous, on n'est pas forcément à jour. En tout cas, on ne sait pas faire ce que tu sais faire. C'est un client qui s'appelle le Posca, du groupe Mitsubishi, qui avait demandé dans son brief de renouveler sa mallette pour ses 20 marqueurs. Et le client avait ouvert la piste de l'intelligence artificielle en disant, vous pouvez, dans cette phase exploratoire, créative, utiliser l'IA et nous proposer des choses avec de l'IA, pourquoi pas. Donc, tout de suite, ça fait tilt dans le cerveau de Christophe en disant, sur ce projet-là, on aimerait que tu montes à bord avec nous et que tu sois aux manettes de la création IA sur le projet. Alors, très vite, déjà, je me suis servi de ce que j'avais appris pendant l'été, que le fait qui était important, c'est de laisser l'humain au centre du process. C'est que j'ai commencé un ping-pong tout de suite avec mon meilleur ami IA qui est ChatGPT. Ouais. Et au niveau des idées, c'est-à-dire voilà, moi je suis venu avec mes idées et je l'ai aussi interrogé sur des idées qu'il pouvait avoir pour renouveler de manière très ouverte cette boîte de cette mallette de marqueurs.
Combien il en a sorti des nouvelles idées, ChatGPT?
Alors là, après, j'ai fait un petit document qui faisait 108 pages.
Ah oui.
Donc, c'est n'importe quoi en termes de création. Ça ne sert absolument à rien. Mais aujourd'hui, je ne le ferai pas forcément exactement de la même façon. Je guiderai un peu plus. Et là, j'ai passé beaucoup de temps à trier. Et une fois que j'ai trié, là, on s'est pris une demi-journée avec Christophe où là, on a échangé, Christophe et moi, donc deux humains, sur les idées et celles qu'on sélectionnait. Je pense qu'on avait, 80 idées ou 100 idées avec des déclinaisons, etc. On a gardé 19 idées qui nous paraissaient très intéressantes. Une douzaine plus des idées que Christophe a eues, que moi j'ai eues, etc. Donc au final, chat plus Christophe plus moi, ça faisait 19 idées. Voilà. Donc là, après,
une fois que vous aviez cette liste-là, c'est là où vous êtes passé finalement au premier prototypage visuel.
Oui. Alors, dans un second temps, après, j'ai travaillé avec Perplexity sur la recherche d'images. Alors, j'aurais pu le faire avec Google, mais je me suis dit, je vais quand même essayer d'utiliser des outils qui ont une connotation IA. Donc, j'ai utilisé Perplexity sur son volet plus recherche Internet.
C'est donc, un élément à la fois. Enfin, vous recherchez à la fois des références et un peu des éléments un peu moodboard, un peu ambiance.
Oui. C'est exactement ça. Donc après, avec Perplexity, j'ai récupéré des images et j'ai créé le moodboard, vous avez dit le bon mot,
d'accord.
Cette trame moodboard qui est à la fois l'association d'idées et d'images qui permet après de pouvoir travailler sur la singularité du projet.
D'accord. Et donc là, c'est là où ensuite vous passez à la phase de création visuelle. Et là, vous arrivez jusqu'à en continuant à affiner finalement, combien de propositions potentielles jusqu'au client?
Si vous voulez, 19 pistes, potentiellement, j'avais déjà 10 visuels par piste. Je me suis remis autour de la table avec Christophe en disant, de par rapport à notre moodboard, j'ai ces 200 visuels, on retrie ensemble, on organise la présentation. Et là, on a fait une présentation PowerPoint où on a présenté, on a gardé que 3 ou 4.
Et vous pensez que ça vous a apporté des idées différentes de ce que vous auriez fait sans?
Ah oui, c'est certain.
D'accord.
C'est certain. On a eu sur les 19, une bonne moitié d'idées qu'on n'aurait pas forcément eues sans l'IA. Et de réorientation qui permettent d'avoir des idées intéressantes.
En tout cas, ce qu'on entend, c'est qu'il n'y a pas de grand remplacement des créatifs avec l'IA, mais au contraire, un ping-pong qui se met en place, finalement, entre l'homme et la machine, entre l'homme et l'IA, dans vos propos. Si vous deviez avoir un dernier conseil à donner à ceux qui pourraient rentrer dans l'IA, dans leur métier, vous leur diriez de rentrer comment, avec quel type de routine quotidienne, finalement, pour rentrer dans l'IA et faire en sorte que l'IA fasse partie des processus de travail. Est-ce que une routine particulière?
Quand je me suis lancé, donc il y a un peu plus d'un an, c'était vraiment, alors c'est encore l'effervescence, mais c'était encore plus l'effervescence à ce moment-là, je trouve. Et puis il fallait que je me forme, c'est-à-dire qu'il fallait que j'apprenne. Donc je me suis mis une petite gymnastique, une petite routine quotidienne. Pendant une heure, je fais de la veille. Je récupère un ou deux outils qui me paraissent pertinents pendant cette veille et je les teste pendant une heure. Voilà. Tous les jours, j'ai, sacralisé deux heures sur lesquelles je faisais que de l'IA veille et expérimentation. Et après, je pouvais les utiliser potentiellement dans des projets clients quand j'avais des projets clients.
Écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage et pour ces partages. C'est l'heure de conclure déjà, Fabrice. On vous retrouve sur izun-consulting.com. On mettra le lien sous l'émission. Izun, en fait, ça s'écrit YSUN, il faut faire attention, -consulting.com. Pour vous demander éventuellement un accompagnement stratégique, une aide dans le sourcing, et puis bien sûr, maintenant, du coup, concevoir de beaux objets utiles conçus avec des outils IA. Merci beaucoup, Fabrice.
Merci Jean-Philippe.
Et merci à vous chers auditeurs. N'oubliez pas de liker cet épisode, ça manipule les algorithmes et c'est cool de manipuler un algorithme. Vous êtes toujours sur 93.1 FM Cause Commune et vous avez plein d'autres émissions à aller regarder sur cause-commune.fm. À bientôt.